Bourse, bilan semestriel, et oui, bilan des 6 premiers mois de l'année, et quelle perspective de tendance estivale selon tous les critères techniques et fondamentaux. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Bilan du semestre sur le marché actions, sur le marché des taux d'intérêt. Écoutez, ce qu'on va faire, ce premier semestre n'est pas anodin. Ferme tendance haussière des actifs risqués, pendant 6 mois, avec des fondamentaux qui interrogent, de multiples débats, une désinflation qui certes est là, mais qui est loin des objectifs des banques centrales, le débat autour de la probabilité d'une récession qui est toujours là, et pourtant, un départ, en tout cas les 6 premiers mois de l'année, archi-haussier, en particulier pour les grandes et même méga capitalisations, bien centrées sur les secteurs les plus cycliques, les valeurs de la tech qui sont revenues tout en haut. En gros, voilà, je vous pose la question suivante. Non mais, la bonne question à se poser, c'est quoi ? C'est quoi ? La bonne question à se poser. Cette tendance, pour la maintenir cet été, il va falloir un alignement des planètes fondamentales. J'aime cette expression. Tout ça pour dire que la situation actuelle des indices boursiers est assez inespérée au regard de l'incertitude fondamentale. Et donc j'ai voulu ici poser les choses. Vous savez, les indicateurs de conjoncture économique qui sont mis à jour chaque mois. Cet été, les prochains chiffres, les prochains agrégats de conjoncture économique de juillet, de août, de septembre, les deux décisions de politique monétaire de la Fed cet été seront décisives. Et il n'y a pas le choix, il n'y a pas le droit à l'erreur. Elles doivent aller dans une certaine direction pour permettre au moins à cette tendance haussière de ne pas s'inverser, car c'est le risque. Et pour certains, la situation actuelle des indices boursiers est propice à des stratégies de vente de très long terme, car ils croient en une récession massive. Mais voilà. Pour l'instant, les hard data macro ne leur donnent pas raison. Oui, me direz-vous, les indicateurs avancés, oui. Mais à la base, ce qui compte, c'est le concret, le réel. Donc, nous allons voir ensemble ici un certain nombre de choses. Je vous donne le plan tout de suite, comme ça, on ne perd pas de temps. Parce que, vous savez, cette vidéo, concrètement, par rapport à tous les slides que j'ai préparés, elle pourrait durer 2 heures. Et je me suis dit, d'une part, je n'ai pas l'énergie d'enregistrer une vidéo de 2 heures. Et de toute façon, personne ne la regarderait. D'autre part, j'ai quand même gardé toute ma structure. Je vais essayer de vous donner une version résumée et rapide de chacune des parties. Et puis, eh bien, vous comptez sur moi chaque lundi, tout au long de l'été, pour tout actualiser, tout suivre, avec parfois des focus sur une partie plus en détail. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, je referai du 100% analyse technique. Donc voilà. Alors, donc je vous donne le plan. Tout d'abord, le bilan. On va faire le bilan du semestre. Voilà, on va regarder le bilan chiffré, structuré, pas simplement les pourcentages. Voilà, les secteurs, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ensuite, ce qu'il faut retenir des fondamentaux du premier semestre. Bien oui, si les indices boursiers en sont là, c'est que certaines données fondamentales ont été disponibles. Quelles sont-elles, ces données fondamentales ? On se fait donc aussi un bilan fondamental. On se fait un bilan, nous faisons pardon, un bilan des signaux techniques du premier semestre. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. La question est de savoir qu'est-ce qu'il est requis ? Quelles sont les données fondamentales nécessaires à obtenir lors des prochaines mises à jour des grands agrégats de conjoncture économique pour au moins que le marché ne renverse pas en tendance baissière. Au mieux que cette tendance haussière se poursuive, pourquoi pas ? Quelles sont toutes les conditions à réunir et sans exception ? Je vais vous les donner. Et on terminera donc par un diagnostic technique des indices boursiers que je ferai assez rapide cette fois-ci, puisque la vidéo sera déjà assez longue. C'est parti ! Chers amis, c'est bon, je me suis rapetissé dans le petit coin à droite. Bourse, bilan semestriel et perspectives de tendance estivale pour les actions et les taux. Eh bien, on attaque directement. Je vous donne le plan. Le plan, je viens de vous le détailler. Mais vous l'avez ici plus en détail. Et donc, on passe directement au vif du sujet car il y a énormément d'illustrations, de contenu. Bourse, on commence donc par un bilan. Un premier semestre en mode risk-on, dominé par les valeurs de la technologie et les larges et méga-caps et de manière générale, les secteurs les plus cycliques. Alors effectivement, le premier semestre de l'année 2023 a mis un terme net et précis au bear market de l'année de 2022, qui avait vu la chute conjuguée du marché actions et du marché obligataire sur fond de hausse verticale des taux d'intérêt. Bon, jusque-là, tout le monde me suit, vous connaissez tout ça par cœur déjà, mais on repose les bases. Le trimestre se termine, vous savez que c'est important là, la fin du premier semestre, c'est important pour la gestion institutionnelle, hein. Bon, il ne va pas partir en vacances pendant 2 mois, mais on fait déjà un premier bilan, il y aura beaucoup moins de volume entre la 3e semaine du mois de juillet et la mi-août, voilà, donc Là, il y a un certain nombre de choses qui sont acquises. Maintenant, pour les défendre, il va falloir des données fondamentales bien précises. Et c'est ça, en fait, dont là, j'ai envie de vous parler. Mais on commence donc par ce bilan. Donc là, je suis déjà en train de perdre du temps, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher, mais quand même, je vais essayer de le faire. La hiérarchie des actifs financiers en 2023, en tout cas sur les 6 premiers mois de l'année, décrit un premier semestre en mode attrait pour le risque. On parle de mode risk-on. Et ce, sur toutes les classes d'actifs. Sur le marché actions, les indices boursiers sont en hausse à 2 chiffres. Les obligations, quant à elles, se sont stabilisées. Le prix des obligations s'est stabilisé. Moi, j'estime qu'il finira par bientôt fortement rebondir. En tout cas, d'ici la fin de l'année, il va falloir déjà que les banques centrales atteignent leur taux terminal. Mais c'est un point d'achat intéressant. Sur le marché d'échange, les devises européennes sont leaders. Le dollar et le yen ferment la marche. Ça aussi, c'est du mode risk-on. Sur les matières premières, j'ai fait simple, le prix du pétrole baisse, l'or est en hausse. Donc, on a quand même un premier semestre qui n'est pas anodin. Et j'ai voulu ici rappeler un certain nombre d'informations. Vous avez donc ici le bilan du premier semestre. Et voilà, je veux dire, tout est résumé. Vous avez tous les indices boursiers qui sont dans le vert, entre 11 et 36%. D'ailleurs, 36%, c'est le compartiment de la tech, donc c'est vraiment du mode risk-on. Et tout en haut, vous retrouvez le cours du Bitcoin, l'action Tesla. Le marché obligataire s'est stabilisé après son crack de 2022. Et le dollar est en baisse, puisque l'euro-dollar est en hausse. L'or est en petite hausse. Le pétrole, lui, est à moins 10. Hein, j'aurais dû le faire apparaître. Donc voilà, on a quand même largement un mode risk-on, alors que je vais illustrer ici de plusieurs façons. Vous savez, on ne peut pas comparer les choux et les carottes. J'aime cette expression, il fallait que je la place. Vous avez ici la performance en 2023. Donc je suis sur TradingView, je clique sur Year to Date pour avoir la performance entre aujourd'hui et le début de l'année. Eh bien, j'ai donc ici converti tous les indices boursiers en dollars. Le DAX fois l'euro-dollar pour avoir la même monnaie que le S&P 500, le CAC fois l'euro-dollar, le SMI fois le CHF USD. Alors le SMI est en retrait parce que justement, mais ça je vais en parler tout à l'heure, parce que vu que est eu égard au fait que ce sont les secteurs les plus cycliques et offensifs qui ont performé, dans le SMI, en gros, je vais exagérer, mais le SMI c'est Roche et Nestlé, plus ses valeurs financières. Valeurs financières ont été un peu sous pression, vous avez quand même suivi la crise bancaire. Roche et Nestlé c'est du défensif, la santé, l'alimentation. Donc, et comme ça pèse la moitié de l'indice, c'est pour ça que le SMI est en retrait. Donc, le fait de voir le SMI en retrait par rapport au CAC ou S&P, ça montre à quel point on est dans un des 6 premiers mois de l'année d'attrait pour le risque. Et j'ai plein d'autres façons de l'illustrer. Donc, ça, c'est une première chose importante. C'est un début d'année largement positif. Sur le marché d'échange, vous avez ici le classement 2023. Bon, là aussi, le fait de voir la livre sterling, l'euro tout en haut et le yen tout en bas, le dollar en baisse, c'est aussi de l'attrait pour le risque. Alors, le franc suisse, lui, est plutôt une valeur défensive. Il est tout en haut. Mais si, les fondamentaux de la Suisse n'ont strictement rien à voir. L'inflation est beaucoup moins élevée. L'inflation est beaucoup moins élevée en Suisse. L'inflation est élevée. Vous savez que ça donne des taux d'intérêt réels qui sont négatifs. Et puis, le fait de voir le franc suisse comme ça bien performer, ça montre qu'il y a encore énormément d'incertitudes fondamentales. C'est pourquoi ça vaut le coup de s'interroger sur ces 6 premiers mois de l'année qui font débat, parce qu'ils sont particulièrement haussiers pour les actifs risqués, les indices boursiers, alors que l'incertitude fondamentale est présente. Et donc, on continue ce bilan du premier semestre. Ce sont surtout les large et les méga cap qui ont porté le marché. Les small et les mid cap sont largement en retrait. Alors effectivement, il y a des nuances à ce premier semestre offensif. Tout d'abord, alors, au-delà de la simple analyse de la performance relative des grands indices boursiers, ce qu'il faut faire, c'est l'analyse de la structure du marché action pour y voir plus clair. Et j'y ai relevé quelques nuances. Deux critères ont ici été pris en compte, les secteurs et la capitalisation boursière. Et on va mettre ça dans un tableau croisé. La hausse des indices boursiers américains est largement du fait des large et des méga cap US. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir conscience de ça. Je vais vous faire apparaître les datas. Il est nécessaire que vous compreniez bien, et ça vous voyez ici, mais je vais remonter ça. Yeah. Si vous retirez, okay, le premier semestre, il est bullish. Ok, très bien. Si on prend le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale. Voilà. Si vous retirez du S&P 500 les grandes valeurs, les méga valeurs, vous savez que les stars de la tech, le PIB de Google, d'Amazon et compagnie, c'est égal quasiment au PIB de la France ou d'un grand pays de la zone euro. Je vais vous montrer ça. Mais si vous retirez ces valeurs, en gros, si vous retirez une dizaine de valeurs, il n'y a pas de bull market au premier semestre. sur la fin, en juin, les mid-cap ont commencé un peu à rattraper leur retard, mais au fond, elles ne sont pas en tendance haussière. Elles sont en trading range depuis des mois et des mois. Ensuite, il y a d'autres nuances. Ok, les secteurs cycliques sont largement leaders, mais il y a quand même deux secteurs cycliques à la traîne. L'énergie, parce que le pétrole est en chute depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, et est en baisse de 10% depuis le début de l'année, et les valeurs de la finance, eu égard au choc des banques régionales américaines en mars. Donc, ce début d'année, certes haussier pour les actifs risqués, il y a quand même quelques nuances, et c'est pourquoi il faut s'interroger sur les fondamentaux. C'est pas comme dans le monde d'avant, des taux zéro, où ça pouvait continuer comme ça de manière linéaire, enfin, comprenez-moi bien, c'est pas possible. Le marché, maintenant, est plus complexe. Pour qu'une tendance haussière comme celle qui est celle depuis le début de l'année se maintienne, dans le monde d'avant, ça pouvait sans souci. Les taux étaient à zéro, pas de stress, pas d'alternative. Les obligations rapportaient zéro, pas d'alternative. Dans le monde actuel, les obligations d'ailleurs, ça rapporte. Les débats fondamentaux sont multiples. Donc, cette tendance haussière depuis le début de l'année, pour qu'elle se maintienne, je parle, moi, il va falloir un alignement. Il va falloir des facteurs fondamentaux bien précis qui ont intérêt à se confirmer. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, et ça arrive plus tard dans la vidéo. Et si vous voulez y aller directement, vous pouvez utiliser la barre de temps, j'ai tout chapitré. Donc là, vous avez un tableau croisé avec les secteurs, les 11 super secteurs du S&P 500. Et vous avez ici la taille des valeurs, nano cap, micro cap, small cap, mid cap, large cap, mega cap. Year to date, depuis le début d'année, vous voyez bien que l'essentiel du vert se concentre sur les méga et les large caps. Les performances incroyables qui commencent par des 3 et des 4 à deux chiffres, ce sont les méga caps. Les nano caps, elles sont toutes en bear market et en chute. Et c'est entre les deux, entre les micros et les mid caps. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que vous enlevez les méga caps, vous enlevez les méga caps, le S&P 500 qui est quand même, voilà, depuis le début de l'année, on a une belle phase haussière. Et d'ailleurs, le S&P 500 a effacé 76,8% du bear market de 2009. Mais vous enlevez une dizaine de valeurs des méga caps, on est là, on est ici. Ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, ça, c'est une première chose à avoir en tête. Et regardez ce que je vous ai mis en bas à droite, mais je vais vous le montrer ici directement. Là, vous avez donc... sur TradingView, je suis avec le classement, donc vous voyez, classement year to date des 11 super secteurs de l'indice S&P 500. Les 500 actions du S&P 500 sont rassemblées dans ces 11 secteurs. Vous avez ici, chez classé comme sur Excel, un clic gauche, vous avez dans l'ordre décroissant. Vous avez quand même les secteurs défensifs sont tout en bas. Utilities, healthcare et staples, les produits bas, sont tout en bas. Ça, effectivement, le fait de voir les secteurs défensifs tout en bas, ça montre qu'il y a de l'attrait pour le risque. Mais en même temps, vous avez l'énergie et les valeurs financières qui sont sous pression. Donc, ce n'est pas non plus archi parfait. Et ça a été vraiment concentré sur certains secteurs offensifs. On peut regarder aussi les heatmaps pour faire ce bilan depuis le début de l'année. Je suis ici sur la heatmap du S&P 500. La taille de chaque quadrilatère représente la capitalisation boursière de l'action en question. Effectivement, services de technologie électronique, commerce de détail, tout ça, ce sont des secteurs très cycliques, c'est du vert. Les grosses valeurs, regardez, les performances des méga caps. Donc, c'est elles qui ont fait les indices. Et effectivement, si vous prenez le SMI, alors, le CAC 40, par exemple, le CAC 40, c'est clairement, ce sont les valeurs du luxe. Le CAC 40, ce sont les valeurs du luxe. En year to date, voilà. Hein. Là, c'est la Chine, hein. Hermès, LVMH, L'Oréal, toute cette, c'est un bon 35% du CAC. Par contre, alors pourquoi est-ce que le SMI est en retrait par rapport au CAC 40 ou au DAX? Je vous ai montré ça tout à l'heure en faisant la comparaison des performances après avoir tout converti en dollars, parce que j'aime bien faire les choses bien et pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais quand même, en comparant ce qui est comparable, tout en dollars, eh bien le SMI est en retrait. Eh bien là aussi, c'est du fait de sa composition. C'est du fait de sa composition. Voilà, vous avez du Roche et du Nestlé en baisse depuis le début de l'année. Bon, bah voilà, vous avez là aussi un bon tiers du CAC. Ce sont des valeurs défensives, tout ça. Donc, c'est ce qui explique que il soit en retrait. Et vous savez, au final, je vais vous montrer à quel point ces stars de la tech comptent énormément. Voilà, je vous montre ici, on va prendre les plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc on va prendre le marché américain, comme ça au passage, ça vous fait un petit tuto d'utilisation de TradingView. Donc on va faire ça proprement. On va prendre évaluation et classement selon la capitalisation, boursière. Vous voyez que Apple, c'est 3 000 milliards de dollars. Microsoft, c'est 2 500 milliards de dollars. Alphabet, 1 500 milliards de dollars. Le PIB de la France, c'est 3 000 milliards de dollars. L'Italie, 2 000 milliards de dollars. Donc, nous sommes en fait sur des valeurs dont la taille est impressionnante, qui créent une distorsion au sein des indices boursiers. Et en plus, ce sont elles qui ont les performances à plus 30 ou plus 40%. Donc voilà. Donc c'est un bull market de début d'année, mais tellement particulier, tellement porté par les large et les méga cap, qu'il va être difficile à tenir, sauf si certaines conditions fondamentales sont réunies, selon ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors, fondamentaux, état des lieux non exhaustif à la fin du premier trimestre 2023. Que faut-il retenir ? Là, c'est pareil, j'ai prévu plusieurs slides. Alors, tout d'abord, en termes de politique monétaire, que retenir de ce premier semestre ? Politique monétaire restrictive en Occident et en approche de sa phase terminale de cycle haussier des taux d'intérêt. Alors que la politique monétaire est très accommodante en Chine. D'ailleurs, le yuan est en chute à cause de cela. Puisque, voilà, depuis la fin de la politique de zéro Covid, la reprise en Chine est certes présente, hein, franchement, on aimerait bien avoir leur croissance, mais inférieure à ce que le gouvernement chinois envisage, et en particulier la consommation intérieure, et donc la politique monétaire est accommodante pour booster tout ça. L'inflation, ce qu'il faut retenir du premier semestre, et là je vous montre finalement des éléments qui ont été le socle de ce bon comportement des indices boursiers au premier semestre. Inflation, tendance générale à la désinflation nominale aux États-Unis et en Europe, mais résilience de l'inflation sous-jacente, j'en dirai un mot tout à l'heure, en particulier le prix des services et de l'immobilier. C'est pour ça qu'on ne sait pas, il y a tout un débat pour savoir quand est-ce que sera atteint le taux terminal des banques centrales occidentales, et pire, quand est-ce qu'elles pivoteront. Vous savez que maintenant, selon les anticipations de marché, le pivot attendu de la Fed, ce n'est pas avant l'hiver 2024. Mais au final, pour que la tendance haussière des indices boursiers se poursuive, il est impératif que cet été, la Fed nous dise qu'elle a atteint son taux terminal. Pas forcément qu'elle pivote. Parce que si le taux terminal, ça dépasse 5,5 ou 5,75, le marché action va s'en prendre une, et une méchante. C'est absolument pas pricé. Je vous rappelle que le bear market de 2022 était celui de la hausse verticale des taux d'intérêt. Passer de 0 à... Nous connaissons leur valeur actuelle. Donc voilà, ça fait partie des choses à retenir ce premier semestre. Il y a toujours, tout au long du premier semestre, le débat autour de l'activité économique, de la croissance économique, le débat autour de la probabilité d'une récession en Occident. Bien oui, la tendance des actions, c'est avant tout les perspectives de bénéfices. Perspectives de bénéfices, c'est lié au cadre économique prospectif. Et actuellement, il y a la réalité d'un ralentissement économique en zone euro, en particulier en Allemagne, aux États-Unis aussi. Il y a eu aussi ce premier semestre l'enjeu de la stabilité financière, avec la Réserve fédérale des États-Unis qui a mis sous perfusion le système bancaire régional américain, les banques régionales étant plus résilientes, et overall, conséquence donc de ces 6 premiers mois de l'année, la valorisation des indices boursiers revenus dans sa moyenne des 5 dernières années. Alors, je vais illustrer l'ensemble de ces propos. Tout d'abord, alors, la désinflation, oui. Vous avez ici un graphique avec, en rouge, vous avez les taux d'inflation ici en Europe, aux États-Unis, en Chine. La tendance générale est à la désinflation. Vous avez en bleu les taux d'intérêt des banques centrales. C'est la restriction monétaire. En noir, les taux d'intérêt du marché. Alors, ils ne font pas de nouveau plus haut, mais voilà, ils sont quand même toujours encore tout en haut, ces taux d'intérêt du marché. Et vous savez, les taux d'intérêt du marché ne vont pas se reverser à la baisse tant qu'il n'y aura pas une certitude sur le taux terminal. Et alors ensuite, ce qui est beaucoup plus important, c'est la durée avant le pivot. Car pour que le marché action poursuive sa tendance haussière, il faut non seulement que le taux terminal soit atteint, mais il ne faut pas que la durée temporelle avant le pivot soit trop longue. Parce que un certain nombre d'entreprises, et notamment les small et les mid-cap, et je vous ai montré qu'elles n'étaient pas haussières, eh bien ne pourront pas encaisser, lorsqu'elles vont renouveler leur financement, ces nouveaux taux d'intérêt. Elles auront peut-être même des refus de crédit, vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la cherté du crédit, la charge d'intérêt, le coût de l'assurance. Alors, les taux des banques centrales, eux sont partout en hausse en Occident, sauf au Japon, et en Chine, ça baisse. Donc voilà, ça, c'est effectivement la Chine peut être considérée à ce moment-là comme un facteur de soutien. Donc voilà, ça c'est ce qu'il fallait retenir pour les fondamentaux du premier semestre. Maintenant, je vous donne quelques illustrations encore. Je vous rappelle que la zone euro est déjà en récession technique, deux trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif. Alors attention, en rythme annuel, le taux de croissance n'est pas négatif. Là, c'est d'un trimestre à l'autre. Il n'y a que l'Allemagne qui a un taux de croissance négatif en rythme annuel. Et d'ailleurs, je vous ai remis ici. Alors ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Lorsqu'on essaie de se projeter sur le plan macroéconomique, la haute finance a beaucoup de respect pour les indices PMI, pour Purchasing Manager Index, qui sont des indicateurs avancés basés sur un sondage des directeurs d'achat. Les directeurs d'achat dans les entreprises qui ont un rôle majeur, puisque c'est clairement eux qui cherchent à se projeter le plus sur l'activité de l'entreprise. Bon, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne et au sein de la zone euro, les indices PMI sont en chute. La frontière, c'est 50. Au-dessus de 50, expansion, sous 50, contraction. Non seulement ils sont sous 50, parfois pour plusieurs mois consécutifs, et en plus, ils continuent de s'enfoncer. Les indicateurs avancés nous garantissent la récession. La zone euro est déjà en récession technique. Mais, voilà, vous allez voir que certaines hard data, donc les choses plus concrètes, pas les sondages, mais la mesure de la production industrielle, la mesure de la consommation, elle, c'est tangent. En rythme annuel, on revient sur des niveaux de croissance à peine au-dessus de zéro, mais c'est pas encore négatif. Donc voilà, certains espèrent. Donc voyez, pour que la tendance haussière des actions se poursuive, il faut déjà avoir des perspectives de profit. Alors elles sont encore perchées, ces perspectives de profit, parce que la majorité des économistes ne croient pas encore à la récession, n'y croient pas simplement. Et puis aussi, il va falloir que les banques centrales ne tardent pas à atteindre leur taux terminal pour ne pas briser justement ces perspectives de profit encore attendues en hausse. Donc il y a tout un tas d'éléments comme ça qui interagissent. C'est pourquoi cette tendance haussière depuis le début de l'année interroge, parce que pour qu'elle se maintienne, il faut énormément de conditions. Et là, voilà, c'est ce dont je vous parlais à l'instant. En termes de hard data, étant donné que j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures, il a fallu que je fasse des choix. Je vous remontre ici le taux de croissance annuel des ventes au détail aux États-Unis, ou encore le taux de croissance annuel de la production industrielle aux États-Unis. Vous voyez qu'on est partout. On est stabilisé sur zéro. Si on passe en dessous, c'est qu'on rentre en récession. Ça devient de la croissance négative. Donc tout ça est quand même encore un peu tangent. Et c'est pourquoi j'insiste, les grands agrégats de conjoncture économique sont mis à jour chaque mois. Cet été, vous aurez 2 décisions de la Réserve fédérale des États-Unis de politique monétaire. Ce sera déterminant à un moment où, avec le rebond du premier semestre, je vous ai mis ici les données de FactSet, le price earning forward du S&P 500. Et bien voilà, tout le rebond du premier semestre nous a ramené en termes de valorisation, de cherté, les actions américaines au-dessus de leur moyenne de valorisation des 10 dernières années, au-dessus de leur moyenne de valorisation des 5 dernières années. On est loin des niveaux de valorisation avant le bear market de 2022, mais on est quand même bien remonté. Et donc voilà, pour aller plus haut, il va falloir des justifications fondamentales. Moi, je vous le dis. C'est soit vraiment ça désinflationne et on est tranquille, les banques centrales atteignent leur taux terminal, soit l'activité économique se maintient en territoire positif, et ça, vous allez voir qu'il y a le baromètre ultime qui est celui du marché du travail. Mais avant de regarder justement ces fondamentaux, je vous fais un rapide bilan donc de ce qu'il faut retenir sur le plan technique de ce premier semestre. Tout d'abord, il y a eu d'abord au préalable une phase de surperformance des indices boursiers européens vis-à-vis de Wall Street, mais qui s'est terminée à partir du mois de mai. L'indice S&P 500, qui fait encore référence pour la haute finance occidentale, a dépassé la résistance majeure des 4200 points et il a retracé 78,6%, qui est un ratio de retracement de Fibonacci du bear market. Alors pour certains, c'est là où se joue l'ultime, pour ceux qui jouent la baisse, si vous voulez, c'est l'ultime ratio. Mais voilà, il faut aussi retenir que les signaux techniques positifs ont été donnés que sur les grandes valeurs. Les small et les mid cap, elles, restent en range. Quant aux taux d'intérêt obligataires, ils sont revenus sur leur plus haut. Les indices boursiers européens, eux, sont collés à leur record historique. Est-ce justifié d'aller plus haut? Alors, je vais justement vous montrer ça directement sur la plateforme, ce sera plus simple. Là, vous avez le ratio Eurostoxx 600, les 600 plus grosses capitalisations boursières européennes, en USD sur le S&P 500. Bon, là, on a eu d'abord un rebond en première partie de semestre et on repart à la baisse sous résistance. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après cette analyse, ce sont les actions américaines qui feront mieux que les actions européennes cet été. Ça ne veut pas dire qu'elles vont monter, elles peuvent simplement chuter moins vite. Hein. Mais voilà, c'est fini la surperformance des actions européennes. Alors, pour le S&P 500, que retenir du semestre sur le plan technique ? Sur le plan technique, c'est qu'il a dépassé des résistances. C'est qu'en termes de momentum long terme, ça ressemble beaucoup au point de départ d'un nouveau bull market. Il y a des choses intéressantes, effectivement. Mais voilà, les bears ont encore un dernier espoir technique qui est que, vous savez, qu'est-ce qui termine ? C'est toujours une divergence qui termine un marché haussier. Vous aviez par exemple ici, regardez le RSI, je suis en hebdo, la divergence baissière avant le choc de la crise sanitaire. Là, vous aviez la divergence baissière avant le bear market de 2022. Là, oui, on est suracheté, mais il n'y a pas de divergence baissière. Alors, pour les bears, ils ont leur dernière chance, ce sont les 4530 points. Vous voyez, c'est 78,6% de retracement de tout le bear market de 2022. Et voilà, mais sinon, effectivement, ce qu'on retient de ce premier semestre, c'est les signaux, c'est les dépassements de résistance sur l'indice S&P 500. Par contre, voilà, si on prend, pour les indices européens, on peut prendre le DAX, par exemple. Le DAX, lui, attention, collé sous les records historiques. Voilà, moi j'estime que le fait d'avoir rejoint ces niveaux-là met un terme à la surperformance des actions européennes vis-à-vis des actions américaines. Vous avez ici le CAC 40 Global Return qui lui fait un nouveau record historique avec les dividendes. Et overall, l'Eurostoxx 50, alors c'est le contrat à terme européen le plus tradé par la finance institutionnelle, c'est l'indice de référence, hein, voilà. Lui, il est revenu sur ses records d'avant le bear market. Donc, moi, je serais pas surpris que tout ça se maintienne au mieux en range, avec en plus les signaux de fin de surperformance. Alors après, voilà, s'il y a l'alignement des planètes fondamentales, effectivement, peut-être que l'Eurostoxx 50 pourra aller chercher ses records de 2007. On n'en est pas très loin. Mais pour ça, il va falloir éviter la récession et il va falloir que ça désinflationne pour que les banques centrales atteignent leur taux terminal et qu'on se projette sur le pivot. Car le marché est toujours dans l'anticipation. Il suffira de se projeter sur le pivot. Mais ce n'est pas gagné. D'ailleurs, on va maintenant passer aux fondamentaux. Car en fait, c'est ça le sujet maintenant. Le sujet, c'est quoi ? Perspective de tendance estivale des actions selon les quatre figures fondamentaux. Soyons clairs. Le sujet, c'est quoi ? Le sujet. Je l'ai écrit ici. On a vu maintenant à quoi ressemblait ce premier semestre. On a vu sur quoi il s'appuyait. On connaît l'incertitude fondamentale. On a le sentiment que ça tient à pas grand-chose. Mais justement, qu'est-ce que c'est que ce pas grand-chose ? En gros, je vous fais le résumé, puis après on retourne en détail. Pour ne pas avoir un violent crack boursier, un violent renversement à la baisse, au mieux rester stable, voire continuer à monter comme ça de manière linéaire. Il faut, et il n'y aura aucun droit à l'erreur, pas un mois à l'erreur. Chaque mois devra confirmer ce que je vais vous lister, la mise à jour de chaque mois de ces agrégats de conjoncture économique. Numéro 1, une désinflation nominale qui se poursuit et qui arrive à 2%. Numéro 2, une désinflation qui devient sous-jacente, c'est-à-dire corps, hors alimentation, énergie. Numéro 3, pas de récession. Faire mentir les indicateurs avancés avec des hard data qui feraient mentir les indicateurs avancés. Numéro 3 ou 4, je ne sais plus. Stabilité bancaire US, même si la Fed les a mis sous supervision, les banques régionales. Et enfin, le marché a besoin d'entendre que les taux terminaux de la Fed et de la BCE soient atteints cet été. Juste ça, juste l'entendre. Alors ensuite, il y aura le critère de la durée avant le pivot. Et ça, on en parlera après. Ce sera l'autre stress, peut-être, de la rentrée. Voilà, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo, j'ai tout résumé. Non, maintenant, on y retourne en détail parce que j'ai quand même plein d'illustrations à vous montrer. Et là, je réalise que j'ai fait un format tellement long encore. Là, je vais finir un jour par vous lasser. Vous allez m'abandonner sur cette chaîne. Alors, donc, prenez votre agenda économique. La mise à jour des grands agrégats de conjoncture économique cet été sera déterminante, essentiellement ce qui concerne les mises à jour de l'inflation et du taux de chômage aux États-Unis. C'est majeur car la Fed, c'est la banque centrale la plus importante. Et pour infléchir sa politique monétaire, elle regarde aussi le marché du travail. Les critères fondamentaux qui vont faire la tendance estivale sont dans l'ordre d'importance. Je cite, je me cite moi-même. Critère numéro 1, l'inflation. Critère numéro 2, l'emploi américain, l'activité économique réelle et avancée. Critère numéro 3, le choix monétaire des banques centrales. Critère numéro 4, la stabilité bancaire. Critère prime 4 prime ou 5, des faits exceptionnels de type géopolitique ou un éventuel signe noir sont éventuellement à considérer. Mais ce qui est le plus important, c'est ça, c'est l'inflation. Il faut qu'en nominal, elle va être à 2% dans 2-3 mois, vous allez voir. L'inflation à la production, c'est déjà sous 2% aux US. Ce qui compte, c'est l'inflation sous-jacente. Les illustrations arrivent. Vous allez voir, l'inflation sous-jacente, elle est stable à 5, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle ne monte plus, elle ne baisse pas. N'oubliez pas aussi l'effet exceptionnel. La tendance haussière depuis le début de l'année, c'est déjà tellement assez incroyable de l'avoir. Personne s'attendait à un tel rallye du Nasdaq. Alors que les taux n'ont pas commencé à baisser. N'oubliez pas le fait dit exceptionnel ou encore le signe noir. Le signe noir, c'est un risque qu'on n'a pas listé. Par exemple, le fait de dire, imaginons que la guerre en Ukraine prenne une tournure, monte encore d'un degré en termes de difficultés. Vous voyez que je pèse mes mots, je fais du politiquement correct. Hein. C'est pas un signe noir ça, parce qu'on l'a déjà listé. Le signe noir, c'est un risque qu'on n'a pas listé. Donc il faut aussi penser à ça. Et puisque là, la hausse s'est appuyée sur des choses un peu compliquées, ça pourrait représenter un choc de marché. Bon, enfin bref, ça tout le monde peut le dire. Allez, maintenant, regardons en détail toutes les données fondamentales. Donc, critère premier. Pour envisager que cette tendance haussière ne s'inverse pas violemment à la baisse, il faut, c'est la base, que la désinflation nominale, on va parler des États-Unis, de l'Europe, Alors bien sûr, en Suisse, il n'y a pas d'inflation aussi élevée, mais la Suisse, c'est un îlot de prospérité tranquille avec le super CHF. La désinflation nominale doit se poursuivre vers 2% et devenir sous-jacente et structurelle. J'insiste, structurelle, c'est-à-dire sous-jacente. C'est-à-dire que c'est le prix des services, le prix de l'immobilier qui doit baisser et pas que le prix du pétrole. Les trois mesures de l'inflation, le PPI, le CPI, le PCE... Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation nominale est attendue en baisse en juin, en juillet, d'après l'algorithme de la fédérale de Cleveland, d'après l'application Trueflation. Mais la Fed, elle n'en regarde que le PCE, l'indice des prix PCE. Et elle s'en inquiète, et elle s'en inquiète à juste titre. Elle s'en inquiète à juste titre. Je vous ai remis ici, on commence par du positif. L'effondrement des prix à la production. Ça, c'est bien. C'est toujours en avance sur les prix à la consommation. Très bien. Vous allez voir, on est bientôt à zéro. Direz-vous, pourquoi est-ce qu'il nous parle d'inflation si les prix à la production sont bientôt à zéro? C'est parce que la Fed regarde le CPI et le PCE. Alors là, vous avez le CPI. Ok, très bien, il est en baisse à 4%. Et d'ailleurs, l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, une des antennes de la Fed, nous dit que ce sera bientôt à 3,22. Impeccable, tout ça, c'est beau, c'est propre. Effectivement, bon, très bien. Mais regardez l'inflation sous-jacente. Je retire l'alimentation et l'énergie. Et regardez. Elle est stable, vous voyez qu'elle est à 5. Elle est à 5, comme les taux d'intérêt d'ailleurs. La Fed, elle vise de... Comprenez-moi bien. N'espérez aucun pivot de la Fed tant que l'inflation nominale n'est pas quasi à 0 et l'inflation sous-jacente à 2. Par contre, nous pouvons largement espérer un taux terminal confirmé. Imaginons qu'elles disent « c'est bon, je suis à 5,50, j'arrête, mais par contre, je reste comme ça pendant 6 mois. » Mais si elle nous dit « j'arrête, je monte plus, je reste à 5,50, mais que je maintiens les taux directeurs à 5,50 pendant un an, là, le marché va s'en prendre une violente. Il n'aura pas pricé ce que j'appelle le critère de la durée avant pivot. » Ah, il faut que j'accélère parce que j'ai plein de choses à vous montrer encore et puis même moi, je suis en train de me fatiguer. Alors, n'oubliez pas aussi les composantes de l'inflation. Tant que les services et l'immobilier, j'ai mis shelter, immobilier, prix des loyers et services, restent tout en haut, la Fed ne pivotera pas. Vous savez, on peut être optimiste lorsqu'on garde Trueflation. Je vous ai déjà montré cette application plusieurs fois. Ce ne sont pas les données d'inflation, les taux d'inflation officiels, mais c'est la vraie inflation concrète. Là, on va au commerce du coin, c'est la réalité. Je signe un nouveau contrat de location, c'est la réalité. Je parle ici des États-Unis d'Amérique. Et donc, lorsqu'on regarde Trueflation dans l'immobilier, c'est déjà quasi à zéro. Donc, on peut être optimiste, Mais voilà, il peut y avoir un violent rebond du pétrole à cause des tensions géopolitiques, il y a des choses comme ça. Bon, mais on peut être optimiste, effectivement, là où en fait où est où est l'incertitude? Je vous montre ici l'inflation sous-jacente. Vous voyez qu'effectivement, elle ne baisse pas. Là, ça change quand même. Inflation nominale, ça chute. Inflation sous-jacente, et non. Voilà ce que regarde la Fed, inflation sous-jacente. Et en fait, c'est quoi? Vous allez bien me dire, il nous embête avec son inflation sous-jacente. Je vais être simple, c'est le prix des services. Et là, c'est qui décide? C'est le board des entreprises. Et bien sûr qu'ils ont fait des marges. Vous croyez qu'ils veulent renier? Pourquoi ça prend autant de temps à baisser? C'est parce que tout ce beau monde qui facture des services, ils ont pris leurs marges et tout. Et ils ne vont pas forcément accepter, c'est même pareil dans la distribution alimentaire. Il faut qu'il y ait même une pression politique pour qu'ils acceptent de renier leurs marges, chèrement acquises. Ce qu'on peut dire. Donc, il va falloir aussi qu'une partie de l'économie réelle joue le jeu. Et ça, ça échappe aux décisions de la Fed. Et c'est pourquoi elle veut contraindre par des taux d'intérêt, des coûts de financement élevés. Bon, ça, on verra bien. Donc, en tout cas, surveillez cet été. Vous avez les mises à jour cet été de tous ces indices d'inflation. En juillet, en août, ce sera décisif. En fait, tout se joue là-dessus. Si vous voulez, si votre souhait, imaginons que vous êtes positionné à l'achat, c'est que la tendance haussière se poursuive ou au moins que ça fasse au pire un range, vous devez souhaiter absolument que la désinflation nominale continue de baisser et que la désinflation sous-jacente devienne une réalité. C'est ce que vous devez ardemment souhaiter. Alors, le critère numéro 2, pour que la tendance haussière ne soit pas remise en cause, il faut que les perspectives de bénéfices restent élevées. Pour cela, il faut que l'activité économique reste positive. Et j'ai pu vous illustrer en faisant le bilan du premier semestre qu'elle était revenue plus ou moins à zéro et que la zone euro était même en récession technique. Mais le critère ultime, c'est quoi? Il y a plein de baromètres, il y a plein d'indicateurs, il y a plein de modèles de probabilité. Je vous montre ça chaque semaine et on peut finir par penser qu'il y a tellement de choses, tellement de lectures différentes que rien n'est concret, eh bien, si il y a un baromètre ultime qui ne ment pas, c'est d'ailleurs le seul. Tout le reste, c'est du vent. Tous les modèles de probabilité dont je vous parle chaque lundi, c'est du vent. Oui, je l'admets, c'est du vent, mais ce n'est pas moi qui les ai créés. Et la haute finance les utilise. Mais il y en a un qui n'est pas du vent, c'est le taux de chômage. Pourquoi? C'est quoi l'indicateur ultime lorsqu'une entreprise sent qu'elle est en récession? Lorsque l'entreprise sent qu'elle va moins vendre, que ses marges commencent à baisser? Quand l'entreprise commence à stresser à cause de l'activité économique qui ralentit, voire qui est négative, qu'est-ce qu'elle fait à la toute fin? Eh bien, elle accepte de licencier, alors que pourtant, c'est dur de recruter des talents. Donc, c'est l'indicateur ultime. Tant que le taux de chômage reste stable en bas, il n'y a pas d'inquiétude pour les bénéfices des entreprises. Si ça commence à vraiment prendre une pente haussière, là, c'est qu'on est vraiment en récession et c'est que les indicateurs avancés ne nous auront pas menti. Et donc, vous voyez que l'alignement des planètes pour que la tendance haussière continue cet été, c'est qu'il faut que ça désinflationne nominalement, sous-jacent, et qu'en plus le taux de chômage reste bas. Et ça, c'est actualisé chaque mois. D'ailleurs, ce vendredi là, 9 juillet je crois, ou 7 juillet, je ne sais plus, 9 juillet, 7 ou 9, à voir, c'est la mise à jour du rapport NFP aux États-Unis. Alors, pour l'instant, et vous savez, si le chômage commence à monter, ça va aussi inciter la Fed à atteindre son taux terminal plus tôt que prévu. Tout ça entre en jeu. Le pire du pire, ce serait une catastrophe. Le pire du pire serait un taux de chômage en hausse. Et d'ailleurs, regardez la pente que prennent les suppressions d'emplois aux États-Unis. Job cuts, c'est pas fameux. Mais le taux de chômage est encore stable en bas. Bon, j'ai mis une flèche de renversement haussier, mais je m'avance peut-être un peu. Le pire, et alors là, ce serait vraiment compliqué pour le marché action, serait un taux de chômage en hausse, une activité économique en contraction et une désinflation qui ne se fait pas. Ça s'appelle la stagflation. Et là, on repart en bear market comme en 2022. On n'en est pas là, rassurez-vous. C'est absolument pas ce que disent pour l'instant les indicateurs économiques, sauf les avancées. Mais en termes d'inflation, c'est plutôt rassurant. Mais vous voyez que ça joue à pas grand-chose. C'est pourquoi ça me paraissait important de faire ce bilan du premier semestre, de montrer à quel point c'est pas qu'il est fragile, mais c'est qu'il s'est appuyé sur vraiment une sélection de valeurs et sur quand même beaucoup d'incertitudes fondamentales. En tout cas, il a décidé de s'appuyer sur le scénario le plus rose sur le plan fondamental, un peu le scénario bisounours. Ça peut être risqué, de mettre toutes ses billes sur le scénario bisounours fondamental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça surveillait bien tout ça tout au long de l'été, toutes ces données. Et alors, il y a bien sûr le critère peut-être finalement le plus important, mais c'est lié à l'inflation, c'est pour que la tendance haussière des indices boursiers se poursuive, il faut que le taux terminal de la Fed ne dépasse pas 5,50, 60, 5,75. Le taux d'intérêt directeur de la Fed est actuellement à 5,25. Non seulement, il ne faut pas dépasser... Alors, d'ailleurs, je vous rappelle les dates à suivre. Cet été, deux rendez-vous majeurs, celui du 26 juillet, mais surtout la réunion monétaire du 20 septembre, car elle s'accompagnera de la mise à jour des projections macroéconomiques de la Fed. Au moment où je vous parle, au moment où j'enregistre cette vidéo... Au moment où j'enregistre cette vidéo, la probabilité que la Fed atteigne son taux terminal, c'est-à-dire après la prochaine hausse de taux en juillet, elle est très forte. Le marché, la hausse du marché s'appuie sur le fait que si vous regardez ces probabilités qui sont basées sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds, le marché pense que le taux terminal est à 5,50. La probabilité que ce soit 5,75 est de 20%. Donc, par contre, c'est quasiment 0 à 6%. Tout ça pour dire que pour que le S&P 500 et le Nasdaq restent haussiers, il est impératif que la Fed soit, lors de sa réunion de juillet ou celle de septembre, nous dise « Allez, c'est bon, je suis à 5,50, c'est bon, je n'irai pas plus haut. Par contre, je ne vais pas baisser, mais je n'irai pas plus haut. » Si elle dit ça, le marché peut aller plus haut. Si par contre, elle nous dit « Je suis à 5,50 » et malheureusement, les dernières mises à jour de l'inflation ne sont pas assez baissières, et je pourrais peut-être aller à 6, attendez-vous à une vraie baisse du marché cet été. Donc, c'est pourquoi, au final, overall, la seule chose qui compte ces prochaines semaines, ce mois de juillet, c'est les tout prochains chiffres des trois mesures de l'inflation, CPI, PPI, PCE, les données de l'emploi. C'est tout. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Et bien sûr, ensuite, toutes les composantes, etc. Donc voilà, ensuite, il y a l'autre thématique, qui est bien sûr la durée avant le pivot, mais ça, ce sera plus une thématique de rentrée, parce que voilà, le fait d'atteindre un taux terminal, c'est bien, mais si ça prend encore, si on reste un an à des taux aussi élevés, le marché action ne va pas apprécier, en particulier les banques. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le système bancaire européen n'a rien à voir avec le système bancaire américain. L'autre bonne nouvelle, c'est que les banques régionales américaines, vous savez qu'un bon deux tiers des Américains est bancarisé auprès des banques régionales américaines. Elles sont maintenant sous perfusion de la Fed. D'ailleurs, ça s'est stabilisé tout ce beau monde. Je vais vous montrer ici les indices sectoriels. On va prendre l'indice sectoriel de la finance, des valeurs financières aux États-Unis. Ça reste quand même un peu tendu. Vous avez ici les bougies japonaises en données hebdomadaires de l'indice sectoriel des valeurs financières aux États-Unis. Voilà, alors, on est au bord du gouffre technique, ça c'est l'ancien plus haut avant le choc de la crise sanitaire. La Fed, voilà, mais on n'est pas reparti en tendance haussière. Donc là, je vous montre aussi que cette soi-disant tendance haussière du premier semestre, elle est vraiment, elle est où ? Elle est sur la tech, regardez. Les valeurs de la tech, les Google et compagnie, c'est eux qui ont fait la hausse. D'ailleurs, ils sont revenus tout en haut. Les valeurs de la consommation discrétionnaire aussi. Alors il y a aussi les valeurs industrielles, donc il y a quand même des secteurs cycliques qui sont haussiers, mais les valeurs financières c'est tendu, donc là aussi la bonne nouvelle c'est qu'elles sont sous perfusion de la réserve fédérale des États-Unis qui utilise non pas ses taux d'intérêt mais qui utilise son bilan. Et je vous remontre ici la corrélation positive entre en bleu la liquidité nette du système interbancaire aux États-Unis envers le S&P 500, en jaune le Bitcoin. Voilà, c'est vraiment grâce au bilan de la Fed que tout ça tient, que tout ce beau monde tient. Donc là, ça va être quand même une thématique un peu en dehors du cycle des taux d'intérêt. Et maintenant, on se fait un petit diagnostic technique, mais rapide, hein, parce que la vidéo est trop longue et je ferai un gros point technique la semaine prochaine dans le Top Gun. Mais en gros, on est en début d'été. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est suracheté sur les graphiques de moyen long terme ? Alors, à court terme, je vous ai montré que oui, on était suracheté. Je vous l'ai montré dans le Top Gun il y a 2 semaines. Et eh bien, je ne suis pas mécontent, puisque pour une fois, je n'ai pas eu tort. Je vous ai fait une vidéo ici en disant qu'on était suracheté. Il y a bien cette phase de retracement, très bien. Ça, c'est du court terme, je ne traite pas le court terme, et peu importe que j'ai raison. Non. La vraie question, c'est, sommes-nous surachetés sur le moyen long terme ? Et y a-t-il donc, uniquement sur le plan technique, un risque de crack à cause de données purement quantitatives et techniques? Alors, je dirais, ça dépend. Sur overall, Sur le plan quantitatif, non, pas encore. Je vous avais montré ça, j'utilise beaucoup pour le moyen terme, dans l'analyse quantitative, le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Là, vous aviez le point haut du marché début février 2023, le point bas d'octobre, le point bas de mars. Lorsque le pourcentage d'action au-dessus du S&P 500 atteindra les 80%, là oui. Donc, il semble qu'il reste encore une marge de manœuvre. De même, par rapport à la moyenne mobile à 200 jours. Donc, sur le plan quantitatif, on n'est pas sur des critères d'hyper surachat. Et c'est pareil, en données hebdomadaires, il n'y a pas de divergence. Voyez ce que c'est ? Les fins de bull market, c'est ça. Il y a des dives. Il y a des dives sur l'horizon de temps moyen terme. On est suracheté, mais il n'y a pas de dives. Donc, pour la première partie de l'été, je ne suis pas trop inquiet. D'accord ? En tout cas, là, sur le plan technique. Alors, après, attention, les small et les mid cap, elles, il n'y a pas de bull market. Encore une fois, je vous montre ici le Russell 2000, les 2000 plus importantes capitalisations boursières américaines, les small et les mid cap, c'est un trading range. Ne me parlez pas de marché haussier au premier semestre. Pourtant, même moi, je l'ai fait là, mais j'ai expliqué pourquoi. Je vous ai fait la première partie où j'ai expliqué la structure, mais c'est vraiment concentré sur une sélection de valeurs. Donc, mais overall, le marché dans sa globalité, les 2000, on voit bien que c'est dans une phase d'attente. C'est clairement dans une phase d'attente. Attention au sentiment des investisseurs particuliers qui est en zone extrême bullish. C'est pourquoi j'estime qu'à court terme, la consolidation peut se poursuivre. Donc, mais ça, c'est du court terme. Et là, je ne traite pas le sujet du court terme. Et sur le plan technique, bon, il y a énormément de choses qui sont à voir. Le positionnement institutionnel, la partie quantitative, la partie momentum, etc. Ce que je vous propose de faire, chers amis, puisque là, je voulais faire le bilan et je voulais poser le cadre fondamental pour cet été. C'est promis. Lundi prochain, je fais 30 minutes, pas plus, mais uniquement sur la partie technique court terme, archi précise, pour les indices européens et les indices US. S'il vous plaît, je compte sur vos likes. C'est comme ça que moi, je peux continuer à faire ces vidéos. Il faut que Swissquote soit content de mon travail. Et donc, ça passe par vos appréciations. J'espère qu'elles sont toujours au moins correctes. Merci à toutes et à tous et passez une bonne semaine. Merci.